Les podcasts de la recherche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la recherche. Nous sommes aujourd'hui en présence de Catherine Sopin. Catherine Sopin, bonjour. Vous êtes enseignante et chercheuse agrégée d'espagnol. Au cours de votre carrière, vous avez eu l'occasion d'enseigner dans les universités de Lille et d'Orléans, ainsi qu'à Sciences Po Lille. Et vos principaux domaines de recherche sont la vie politique et sociale de l'Espagne contemporaine et actuelle, la condition féminine et les mobilisations féministes, et les représentations médiatiques. Et vos activités de recherche sont très riches. Vous avez rédigé une multitude de chapitres d'ouvrages et d'articles dans des revues, participé à de nombreux colloques, vous êtes aussi traductrice. Et parmi tout ça, on peut citer un livre, celui que vous avez publié en 2017 et qui s'intitule « Josefina Carabias, l'engagement d'une journaliste pour les droits des femmes, 1955-1980 ». Aujourd'hui, à Sciences Po Lille, vous êtes maîtresse de conférences, mais aussi chargée de mission égalité de genre. Et on aimerait ainsi vous poser une première question. Comment est-ce que vous envisagez le rapport entre vos recherches, qui portent donc notamment sur des enjeux féministes, et votre rôle de chargée de mission égalité de genre?
Alors, c'est effectivement une question, la question du croisement des, à la fois de plusieurs missions ici. Donc, en tant que chercheuse, les questions que je traite, qui ont trait à la condition féminine, l'évolution des droits des femmes en Espagne, et puis cette question de l'égalité de genre, je pense qu'elle m'a été confiée, notamment parce que c'était un domaine sur lequel je travaillais en tant que chercheuse. Donc moi j'y vois une cohérence, et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, et la mission que j'exerce ici depuis quelques années m'a amenée aussi à plus m'intéresser du point de vue de la recherche à ces questions, par exemple de VSS, que j'avais pas forcément traitées auparavant, et en même temps l'actualité espagnole aussi bien évidemment m'y a conduite.
Et justement, dans la recherche spécifiquement, comment est-ce que vous envisagez l'égalité de genre? Et comment, surtout, vous vivez le fait d'être une femme qui fait de la recherche?
Je pense que j'ai éprouvé, mais je ne pense pas que ça tienne que à la recherche. J'ai éprouvé cette question de la conciliation vie professionnelle, vie familiale, qui n'est pas le lot que des enseignantes chercheuses. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai vécu ou que je continue à vivre aujourd'hui. Et sur la question de voilà, des inégalités qu'on peut voir apparaître, sur par exemple, on pourrait se dire, enfin voilà, mon statut de MCF aujourd'hui et non pas de professeur des universités, le fait que j'ai pas encore soutenu d'habilitation, que je me sois pas encore engagée dans une habilitation à diriger des recherches, voilà, je pense que je suis un cas de figure parmi beaucoup d'autres. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve, un profil qu'on retrouve plus généralement parmi les enseignantes chercheuses que les enseignants chercheurs. Voilà, c'est une réalité.
Et comment est-ce que vous êtes devenue enseignante chercheuse? C'était un choix de longue date ou plutôt un hasard?
Je dirais un peu les deux, parce que d'abord j'ai eu une première partie de carrière qui a quand même duré une bonne dizaine d'années dans l'enseignement secondaire. Donc moi je débute en lycée, et de 2002 à 2013 à peu près, et en même temps dès mon arrivée au lycée, pratiquement dès les premières années, je décide de m'inscrire en thèse. Donc en fait, j'ai fait ma thèse en parallèle. Donc une thèse qui prend plus de temps du fait de ce travail que j'ai à plein temps à côté, et puis d'une vie de famille qui s'installe aussi. Et en même temps, c'est vrai que j'avais fait ce choix de m'inscrire en thèse dès le début, en me disant que l'enseignement dans le secondaire, je savais que ça allait me plaire, que ça me plaisait. Et en même temps, j'avais tout de suite eu cette volonté d'ouvrir une porte, une fenêtre, en disant que voilà, peut-être que je prendrais ce chemin de l'enseignement supérieur sans savoir, et quand j'ai quitté l'enseignement secondaire, c'était le bon moment de le faire.
Ok. Alors, vos recherches portent principalement sur l'Espagne et surtout sur les femmes et la question du féminisme en Espagne. D'où vous vient cet intérêt pour ce sujet en particulier?
Alors du coup, l'Espagne, donc comme je disais, ma première partie, j'ai d'abord été enseignante d'espagnol en lycée. J'ai fait des études de ce qu'on appelle LLCE, donc c'est langue, littérature et civilisation étrangère. Et dans ce cursus, moi, je me suis tout de suite spécialisée en civilisation. Ce qui m'a tout de suite plus intéressée, ce sont les enseignements d'histoire de l'Espagne, et notamment d'histoire contemporaine, donc 19e, 20e. Et parallèlement, j'ai toujours été, avant d'entamer mes études d'espagnol, j'avais longuement hésité avec des études en sociologie. Et donc voilà, je pense que j'ai fini par remettre tout ça ensemble finalement en m'engageant dans la recherche et en retravaillant sur ces sujets que je croise en fait aujourd'hui.
Mais votre intérêt pour l'Espagne, c'est un intérêt, pur intérêt ? Il n'y a rien qui vous rattache personnellement à l'histoire de l'Espagne
ou... Rien personnellement, mis à part des vacances familiales très 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 régulières, enfin bon, en tous les cas, voilà, tous les ans, d'y être allée avec la famille quand j'étais jeune. Une mère qui elle-même avait fait des études d'espagnol et puis n'a pas donné suite à voilà, il y a des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, mais qui ont fait qu'elle a eu une carrière professionnelle dans un autre domaine complètement différent. Donc voilà, donc effectivement un contact avec ce pays quand même très très tôt et un intérêt qui était aussi un intérêt présent dans la famille, et puis derrière, bah, c'est un pays qui aujourd'hui voilà, occupe une part d'autant plus importante dans ma vie que c'est le second pays de mes enfants, donc ça, voilà, il y a eu un rapprochement, je veux dire, de plus en plus fort avec le pays au fur et à mesure des années.
D'accord. Et alors, vos recherches portent aussi sur les représentations médiatiques et la dimension genrée du journalisme. Est-ce que vous parlez par exemple d'un plafond de verre que subissent les femmes journalistes en Espagne et partout ailleurs. En quoi le journalisme est un cas particulièrement intéressant pour s'interroger sur le féminisme et sur la place des femmes dans la société ?
C'est parce que le discours médiatique est un élément clé. On sait que c'est un des éléments qui peuvent aider, par exemple, à la mise à l'agenda politique d'un sujet. Clairement, dans le cas de, par exemple, de la loi de 2004 en Espagne, l'implication de le changement dans le discours médiatique et le changement, voilà, accompagné aussi un changement sociétal dans les années précédentes. Et aujourd'hui, voilà, une des choses qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les évolutions qui sont en cours dans le monde, ou une partie du monde médiatique espagnol, avec par exemple l'apparition, la multiplication de... Le terme n'existe pas en français, justement parce qu'il n'y a pas exactement l'équivalent en français, mais les gender editors, ou en Espagne on parle de editoras de igualdad ou corresponsales de género pour El País, et donc on en a dans le journal El País, on en a pour la radio-télévision publique espagnole, et donc ce sont des nouveaux postes, des nouvelles figures de journalistes qui sont apparues, des nouvelles des guides de style aussi qui sont mis en place par certains médias, voilà. Et comment est-ce que tout ça, ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui à l'œuvre et depuis peu, hein, parce que on parle de changements qui ont eu lieu depuis 2017-2018, donc ça, c'est voilà, ça fait partie des choses qui sont particulièrement intéressantes à étudier.
Et vous parlez beaucoup notamment d'une femme en particulier qui est Josefina Carabias. Pourquoi elle ?
Alors pourquoi elle ? Moi, je la découvre par le biais de ma directrice de thèse, c'est-à-dire que à l'issue de mon master où j'avais travaillé sur la question du militantisme, se pose la question de mon inscription en thèse, et ma directrice de thèse, qui est espagnole, me fait cette suggestion, me fait découvrir cette journaliste que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est son parcours de vie qui m'a particulièrement interpellée, puisque c'est une femme qui a couvert tout le XXe siècle et qui a vécu toutes ces étapes aussi marquantes les unes que les autres, que sont l'arrivée de la Seconde République avec de nouveaux droits pour les femmes, l'accès à la citoyenneté, notamment, voilà, la question du vote. Et puis la guerre civile, la dictature, le retour de la démocratie avec la transition, parce qu'elle est née en 1908, elle devient journaliste en 1930 et elle meurt en 1980. Et donc elle a été journaliste des années 30 jusqu'aux années 80, donc elle a été à la fois actrice, témoin. Donc son parcours la rend et son parcours de vie la rend particulièrement intéressante en fait, pour pouvoir étudier aussi à travers son cas et à travers son discours l'évolution de la condition féminine.
D'accord. Alors, on va retourner un peu en France. Vous avez réalisé des travaux en français et en espagnol et vous coordonnez notamment la FIFE, donc, qui est le double diplôme franco-espagnol, notamment à Sciences Po. Quelle différence est-ce que vous voyez entre les laboratoires de recherche français et les laboratoires de recherche espagnols ?
Alors, dans les laboratoires de recherche espagnols, ils ont une instance, l'instance au niveau national qui s'appelle la ANECA. Il y a une très forte pression auprès de mes collègues espagnols que je vois toujours extrêmement stressés par tout ce qui est comme une... ils sont comptables de tout ce qu'ils produisent de façon, je pense, beaucoup plus forte encore que nous, chercheurs ici en France, dans le sens avec même si il y a bien évidemment une attention en France et une exigence de publication en termes de publication dans des revues à comité de lecture, de coordination d'ouvrages, etc. Mais dans le cas espagnol, il y a une sorte de bureaucratie, j'ai envie de dire, et d'administration encore plus présente avec un système de points liés de points calculés par rapport à ce type de publication qui fait qu'il y a... c'est une différence que j'observe entre les deux pays où on n'a pas, nous, chercheurs français, cette pression aussi forte que je vois chez mes collègues. Sinon, sur ce qui est la vie d'un laboratoire de recherche, à l'organisation de séminaires, de colloques, d'axes de recherche, de recherches menées à la fois de façon individuelle et collective, c'est tout à fait similaire.
Et pour ce qui est de l'avenir, comment est-ce que vous envisagez votre avenir à Sciences Po Lille ou ailleurs ? Est-ce que vous avez des projets de recherche ? Est-ce que justement vous comptez intégrer d'autres laboratoires ou...
Alors, intégrer d'autres laboratoires, non. Je suis assez heureuse. Je suis heureuse au CERAPS. Projet d'avenir... là aussi, pour l'instant, je me trouve très bien à Sciences Po Lille. La question se pose de la poursuite ou pas de la mission par rapport à la mission égalité. Et mes envies, elles sont plutôt sur un développement encore de ma recherche. Je fourmille d'idées que j'arrive jamais complètement à mettre en place des projets, plus des envies d'organisation de colloques ou de journées d'études sur un certain nombre de sujets et sur lesquels j'ai pas eu l'occasion de travailler dans les dernières années.
Et vous avez un projet que vous voulez partager là maintenant ou
Par exemple la question des médias et du rôle des médias, je pense que ça ferait vraiment sens ici à Sciences Po Lille, avec la proximité en plus de l'ESJ et puis le double master entre Sciences Po Lille et l'ESJ, et puis la présence de collègues comme Sandrine Lévesque qui est aussi une grande spécialiste de cette question. Ça me trompe dans la tête depuis un petit moment, même si j'ai pas encore eu le temps de concrétiser la chose, mais je verrai bien l'organisation d'activités de recherche autour de ce thème-là.
Donc pour résumer, comment est-ce que vous voyez ce métier d'enseignante-chercheuse ? Quels sont les atouts, mais quels sont aussi les inconvénients ? Et quels conseils est-ce que vous donneriez aux étudiants qui désiraient faire de la recherche aujourd'hui ?
Alors, comment est-ce que je le conçois ? Moi, ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est comment est-ce que j'arrive à faire jouer ou à enrichir, comment est-ce que et l'enseignement et la recherche s'enrichissent mutuellement. J'ai la chance, et je sais que ce n'est pas le cas pour tous mes collègues, parce que parfois ça dépend du poste sur lequel on a pu être, et les enseignements ne sont pas toujours complètement raccord, j'ai envie de dire, avec la recherche qu'on mène. Moi, j'ai la chance d'être sur un poste et dans une école qui me permet d'avoir des enseignements qui sont vraiment en lien aussi avec ma recherche. Et donc, du coup, je peux réinvestir ma recherche dans les enseignements et en même temps, les enseignements que j'ai pris en charge à Sciences Po et m'ont amené aussi à traiter des sujets qui sont devenus des pistes de recherche et qui m'ont invité à aller découvrir de nouveaux terrains auxquels je n'aurais pas forcément pensé avant même, par exemple, d'intégrer l'équipe enseignante de Sciences Po. Dans les avantages, on ne va pas se le cacher, de la profession, il y a cette grande liberté et d'organisation de travail qu'on peut avoir, dans le sens où on définit aussi des priorités. Je pense que le plus gros inconvénient, c'est la question de la charge de travail ce qu'on demande aux enseignants-chercheurs, et on est aussi évalué là-dessus. C'est à la fois l'investissement dans les enseignements, l'investissement dans la recherche et l'investissement dans l'établissement, la charge administrative. Et de fait, mener tout ça de front, être sur les trois jambes en même temps, de façon équilibrée, et tout en consignant ça avec une vie personnelle, c'est parfois compliqué.
Donc il faut attendre quand même un débordement sur la vie privée.
Oui, et bon, ça c'est lié aussi, c'est lié à la... Parce qu'il n'y a pas de... ça ne s'arrête jamais. La recherche fait que ça peut être tout le temps. Donc si on ne dit pas stop, si on ne s'impose pas des moments de coupure, on peut très vite être dans une espèce de course en avant où on peut s'oublier, ou on peut oublier les autres autour de soi. Ça c'est un risque.
Et c'est un risque que vous avez vécu personnellement et qui vous a posé, qui vous a amené à vous remettre en question, ou ça a toujours été plutôt bien aménagé par vous et...
Non, c'est un risque que j'ai vécu. C'est une question que j'ai vraiment continuellement en tête. Si je peux citer juste une anecdote, quand on parlait, je me souviens de mon fils avec quelques années qui me posant la question, voyant un petit parquet de post-it sur ma table de bureau, à quoi ça sert. Et donc je lui explique un post-it parce qu'on note quelque chose d'important, puis on le colle là, et puis qui m'a collé des post-it avec son prénom un peu partout. Bon, voilà, là, le message était très très clair, et quand on voit ça, bon, ça invite toujours à réfléchir, et en même temps, on me le dit à la maison, t'es toujours derrière ton ordinateur, tu travailles tout le temps, et en même temps, quand c'est dit, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a du dialogue possible, et de l'explication par rapport à ce qu'est mon travail. Donc voilà, la recherche de l'équilibre, elle est un peu constante et elle est toujours un peu compliquée.
Il y a aussi la question de l'équilibre entre passion et travail. On parle beaucoup de la passion en recherche, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où la passion devient une charge de travail trop importante qui peut parfois démotiver ? Est-ce que vous l'avez vécu également, ou est-ce que vous, ça ne s'arrête pas au sens de la passion ?
Alors, sur passion dans le sens où effectivement les sujets, c'est-à-dire que c'est une des grandes chances, pour peut-être raccrocher aussi sur la crise précédente, c'est une des grandes chances par rapport à la recherche, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression de continuellement apprendre, et ça j'adore ça, travailler sur un sujet, les lectures que je vais faire au préalable, en parallèle, les lectures des travaux de mes collègues, donc j'ai l'impression de cette soif de connaissance ou de continuer à être quelque part une éternelle étudiante en lisant aussi les travaux de mes collègues, et à partir de ces travaux d'avancer dans ma propre recherche. Ça, c'est quelque chose qui effectivement est passionnant.
Et à Sciences Po Lille, il y a plusieurs filières internationales, vous en dirigez une notamment. Quel conseil vous donneriez spécifiquement aux étudiants qui envisagent de travailler dans une langue étrangère ?
Si c'est vraiment leur but de travailler dans une langue étrangère, très clairement, multiplier, d'aller dans le pays, ou de s'exposer à la langue le plus tôt possible, d'aller faire cette expérience qui est magique, d'aller vivre à l'étranger et de s'installer dans un pays et de le connaître de façon de façon complètement différente en observant les us et coutumes, en regardant la télé, en échangeant avec les gens. Mais si c'est du point de vue linguistique, de la langue et d'être en capacité de travailler à l'international, c'est sûr que être en contact avec la langue, que ce soit par le contact avec des personnes, que ce soit sur le contact par rapport à l'écoute de la radio, de la télévision, le suivi des séries, des films, de la littérature, ça c'est de multiplier, s'exposer à la langue le plus possible.
Est-ce que pour finir, vous souhaitez partager quelque chose ?
Partager quelque chose sur... Mais je sais pas, peut-être juste quelque chose de positif dans le sens où pour les étudiants et les que j'ai croisés ici et là depuis 2017, puisque maintenant ça va faire presque bien 6 ans là, que je suis ici. Donc ce qui n'avait pas été une évidence pour moi de quitter l'université, parce que je viens de l'université. Et donc quelque part, j'étais très contente d'y être, avec cette sensation de rendre à l'université ce qu'elle m'avait apporté. Donc j'ai eu des grosses hésitations au moment de postuler ici, avec en termes de que je trahissais pas quelque chose en quittant ce monde-là. Donc est-ce que j'ai et aujourd'hui, 6 ans après, je pense que les personnes que j'ai croisées, à la fois parmi les collègues et puis parmi les étudiants, ça compense largement mes questionnements d'il y a quelques années.
D'accord, merci beaucoup Catherine Sopin.
Merci.